J'aimerais vous saluer chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être parmi vous de nouveau ce matin. Je ne sais pas, l'année passée, on vient chaque année, mais pas nécessairement pour présenter ou pour prêcher. Cette fois-ci, voilà, ça s'est arrangé comme ça et nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin pour cela. J'aimerais aussi vous remercier. En fait, Abby et moi, on veut vous remercier pour votre soutien financier fidèle, comme Benoît l'a dit, depuis plusieurs années, mais aussi pour vos prières pour nous et notre ministère. J'aimerais prier avant d'aller plus loin. Seigneur, ensemble, nous sommes devant toi ce matin, les cœurs ouverts, nous voulons regarder à toi et recevoir de toi ce que tu as prévu pour notre âme, chacun d'entre nous. Nous voulons te remercier pour ton immense amour pour nous, pour ta grâce, te remercier pour le privilège de te connaître parce que tu nous as connus en premier. Et dès avant la fondation du monde, tu avais un projet pour nos vies, Seigneur. C'est tellement merveilleux, on ne peut même pas le réaliser, nous le représenter. Merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu as un projet pour chacun d'entre nous, pour notre vie. Tu veux faire de chacun d'entre nous des serviteurs, des servantes utiles dans ton œuvre. Et notre désir, le désir de nos cœurs, c'est que tu nous aides à mieux t'aimer toujours davantage et à mieux te servir pour ta gloire et l'avancement de ton règne. Bénis ta parole dans nos pensées, dans nos cœurs ce matin. Nous t'en prions au nom de Christ. Amen. Lorsque nous étions en Belgique, parce que oui, c'est vrai, on était 17 ans, 18 ans en Belgique et maintenant ça fait 7 ans qu'on est en France. Mais lorsque nous étions en Belgique, notre ministère était vraiment difficile. La Belgique est un champ missionnaire difficile et en plus de ça, il y avait des grandes difficultés dans l'association d'Église Baptiste où on travaillait. C'était à un certain moment même presque un cauchemar. Mais Dieu était en train de nous former à travers ces difficultés. Et pendant ce temps-là, alors que nous étions en Belgique, nos enfants étaient revenus ici, et le Seigneur nous bénissait à travers nos enfants, notre famille élargie, qui nous donnait beaucoup de satisfaction. Eh bien, aujourd'hui, Dieu bénit vraiment notre ministère en France et des ténèbres à la lumière presque. Nous sommes beaucoup bénis. Et nous avons beaucoup de joie avec nos missionnaires de France pour Christ, mais aussi avec notre église locale. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et à travers ces bénédictions, Dieu nous fait encore grandir. Par contre, au niveau familial, comme vous le savez, je pense la plupart d'entre vous, ça fait 3 ans qu'on est dans la tourmente. Et même si c'est très difficile et douloureux par moments, nous voyons que Dieu, à travers ces épreuves aussi, nous fait grandir. Donc, merci à vos responsables qui nous ont beaucoup aidés, la famille, pendant ces épreuves, ces 3 années d'épreuves. Donc, merci à chacun d'entre vous, les responsables, et merci à vous tous pour vos prières dans ces difficultés. Ce matin, le Seigneur a attiré notre attention. Il y a quelques semaines, vous savez, quand on revient au pays pour faire rapport de notre ministère, on prie le Seigneur qui nous donne les paroles, le message, le texte biblique qu'il vous destine. Et cette année, malgré nos prières, le Seigneur n'avait pas répondu. On était déjà ici qu'on n'avait toujours rien. Qu'est-ce qu'on va leur dire à nos frères et sœurs dans les églises qu'on va visiter? Et je crois que c'était le deuxième dimanche ou le premier, on sortait pendant le culte, un prédicateur invité dans l'église où on était ici au Québec mentionne un passage qui n'était pas sa prédication, mais comme ça il mentionne un verset et tout de suite ça a fait tilt. Et Abby, en sortant du culte, Abby et moi, on avait la même réaction. Voilà, c'est sur ça que je vais prêcher. Et ce texte, c'est dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22. J'aimerais le lire et je vous invite à suivre cette lecture, Marc chapitre 10, au verset 17. Une histoire bien connue, mais on va regarder simplement quelques paroles de Jésus dans ce texte-là. Donc Marc, au chapitre 10, verset 17, voici ce que l'évangéliste a écrit pour nous aujourd'hui aussi. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Lorsque nous allons à nos formations de SEMBEC à Montréal, ceux qui se destinent à devenir responsables, eh bien, on reçoit de bons enseignements. Et je me souviens, il y a quelques années, il y avait un pasteur de... Tim Savage, qui c'est qui s'appelle? Phoenix, Arizona, voilà. Tim Savage, qui nous enseignait sur l'Épître aux Romains. Et je me souviens d'une parole que je n'oublierai jamais. Il parlait toujours du grand portrait. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le grand portrait selon Tim Savage? Peut-être pas, hein? Mais dans les Épîtres de Paul et partout dans la parole, Dieu veut toujours d'abord attirer l'attention sur lui-même avant de donner des instructions. Et dans Romains, c'est clair, vous connaissez, j'imagine, assez bien l'Épître aux Romains. Les 11 premiers chapitres, c'est le grand portrait. Et même après, dans la partie pratique de l'Épître, à partir du chapitre 12, Dieu est toujours là, en filigrane, et toujours présent, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il a beau nous donner toutes les instructions, tous les commandements possibles, comme dans ce texte, sans Dieu, on est trop faible, on n'a aucune ressource en nous. Et c'est pour ça, j'aimerais dans un premier temps, avec ce texte et la phrase, le bout de phrase qui nous intéresse, dans les paroles de Jésus, c'est quand Jésus dit « Viens et suis-moi ». Viens, suis-moi. Et la première chose que j'aimerais examiner dans ces trois mots, c'est le « moi ». Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui invite? Qui est celui qui parle? Ben, c'est clair, c'est Jésus. Hein? Et le grand portrait ici, c'est d'examiner qui est ce Jésus qui parle. Qui est ce Jésus de Nazareth? Qui est-il en réalité? Et nous voulons d'abord, dans un premier temps, nous laisser éblouir par le Seigneur Jésus. Jésus, nous le savons, est le Dieu infini, le Dieu sauveur. Benoît, dans sa prière tout à l'heure, a parlé de Jésus comme étant l'empreinte de sa personne, de Dieu, du Père. Bien, le jeune homme aborde, en fait, c'est pas un jeune homme, hein, j'avais cru lire déjà que c'était un jeune homme, mais j'ai regardé les différents évangiles là, en tout cas dans ma traduction second 21, on parle de l'homme, c'est pas bien important, mais cet homme aborde Jésus en l'appelant bon maître, au verset 17, n'est-ce pas? Mais Jésus le reprend. Moi, ça me surprend un peu. Non, pas vous? Moi, ça me surprend. Jésus le reprend et lui dit que c'est Dieu seul qui est bon. Au verset 18. Alors, certains pourraient croire de cela que Jésus se dissocie ainsi de Dieu. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. Puisque de nombreuses fois ailleurs dans la parole, nous voyons que Jésus qui s'identifie au Père, non seulement est en communion et en relation étroite avec le Père, mais il s'identifie à lui. Jean 14, 9, il proclame « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Et dans Jean 10, 30, vous vous rappelez ces paroles de Jésus, Il affirme, il dit, « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Wow! Paul va ajouter plus tard, dans Colossiens chapitre 1, verset 11, il dit que toute la plénitude de Dieu, je ne peux même pas me l'imaginer, toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Le même amour que le Père. Si le Père a envoyé son Fils, nous savons bien que le Fils est venu par amour. Il a obéi par amour. Et il a aimé au point de donner sa vie pour nous. Même compassion, mêmes exigences que le Père. Jésus a les mêmes demandes d'obéissance que le Père. Mais il accorde aussi la même grâce et fait preuve de la même miséricorde que le Père. Alors qu'est-ce que fait Jésus en reprenant cet homme-là? Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus fait remarquer à cet homme qu'en fait, il ne le connaît pas. Il s'approche de Jésus, c'est vrai, il se jette à ses pieds, mais il est préoccupé non pas par Jésus, il est préoccupé par lui-même. Il veut aller au ciel. Bon, au fond, c'est un désir légitime, non? Moi aussi, j'ai cherché Dieu parce que je voulais aller au ciel. J'avais compris à l'âge de 13 ans que si j'allais mourir à l'instant même, j'étais condamné, j'allais en enfer. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas. Et je me suis mis à chercher Dieu. Cet homme a scrupuleusement respecté, en fait c'est ce qu'il affirme et on ne met pas sa parole en doute, il a scrupuleusement respecté tout ce qu'on lui avait enseigné depuis son enfance. Mais peut-être qu'il a un doute. Il pense qu'il n'en a pas fait assez. Et il espère être rassuré par le Seigneur Jésus. Mais que fait Jésus? Jésus veut se révéler à lui. Jésus veut que cet homme-là le connaisse lui, le seul Dieu. Jésus ne veut pas seulement le rassurer. Il veut qu'il le connaisse. Imaginez Jésus, Dieu, qui est là en face de lui. Dieu qui est là, Dieu parmi les hommes. Lorsque nous lisons l'Évangile, lorsque je lis la parole de Dieu, est-ce que je suis ébloui par ce Jésus-là? Est-ce que vous êtes ébloui? J'aime, quand je lis ma parole, ces derniers temps, à faire ressortir le caractère de Dieu, découvrir Dieu de plus en plus, et de pouvoir l'adorer, de pouvoir mieux le servir à travers cela, de pouvoir lui faire davantage confiance. Est-ce que son amour nous émerveille? On l'a chanté de nombreuses fois ce matin, mais est-ce qu'on se laisse bouleverser par son amour, transformer, émerveiller par son amour? Est-ce que nous l'adorons, ce Jésus-là? Est-ce que nous prenons du temps chaque jour pour le remercier, pour l'adorer, nous laisser éblouir par son œuvre, mais surtout par son être, de qui il est? Moi, j'aime beaucoup le chant que vous connaissez peut-être. « Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. » Qui le connaît? Vous le chantez? Non? Ouais, pas beaucoup de mains. Il faudrait l'apprendre. 717 dans « J'aime l'Éternel ». Mais ce que j'aime particulièrement, c'est vrai, Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait, mais il est bien plus merveilleux encore dans tout ce qu'il est. Et on n'aura jamais assez de toute notre vie pour découvrir qui il est. Est-ce que vous connaissez vraiment ce Jésus-là, ce Jésus qui est Dieu? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne le connaissent pas encore? C'est possible. On peut aller à l'église tous les dimanches et ne pas encore le connaître. J'espère que nous sommes nombreux, et je crois que nous sommes nombreux à le connaître. Mais nous pouvons connaître Jésus, oui. Nous pouvons même le connaître intellectuellement et seulement intellectuellement. On peut le connaître dans notre tête. Mais cette connaissance n'est pas encore descendue dans notre cœur. On peut connaître tous les faits qui concernent Jésus ou Dieu, mais ne pas vraiment connaître Jésus ou Dieu comme une personne, comme quelqu'un qu'on côtoie. Pour connaître quelqu'un, en fait, il faut côtoyer ce quelqu'un. Si je ne côtoyais pas Abby, je ne pourrais pas dire qui elle est. Je commence à connaître qui elle est. Ça fait 39 ans... Ça fera le 6 septembre, dans quelques jours. quelques semaines. Il faut côtoyer quelqu'un pour le connaître. Et plus on côtoie quelqu'un, plus on le connaît. Et plus on l'aime, plus on lui ressemble, on peut lui ressembler. Oui, dans ce sens-là, Dieu cherche à se faire connaître à nous. Il veut se révéler à nous. Mais pour cela, il faut aller dans sa présence, il faut aller dans sa parole. Il faut chercher à le côtoyer. Pour ma part, j'estime le connaître encore très peu, malheureusement. Mais d'un autre côté, c'est une joie parce que je sais que le jour où je serai face à face avec lui, waouh, je serai renversé par sa gloire, par sa beauté, par sa sainteté. Dieu se fait connaître à nous aussi à travers les difficultés, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et je vais laisser maintenant à Abby la parole pour parler de cela.
C'est vrai, Dieu se fait connaître aussi à travers les difficultés et peut-être d'une manière toute plus particulière à travers les choses difficiles. Et Dieu est toujours le même, Dieu ne change pas. Peu importe quand les choses vont bien ou quand les choses vont mal. Parfois, on a l'impression que si on marche avec le Seigneur, si on obéit, si on fait tout ce qu'il faut, eh ben normalement, les choses devraient bien aller. Mais c'est pas ce qui se passe, parce que Dieu veut qu'on le connaisse lui, pas qu'on soit simplement satisfait avec nous-mêmes ou avec les choses telles que nous avons l'impression qu'elles devraient aller. Et on peut vraiment dire que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est au-dessus de tout. Il est toujours présent. On peut avoir cette paix parce qu'on a cette assurance qu'il est toujours là. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que même dans les tempêtes, même quand les choses sont bouleversées, même quand on a des tas de questions, même quand il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, on peut être dans la paix. Ésaïe 26 nous dit que on est dans la paix parce qu'on se confie en lui. Et c'est vrai particulièrement quand on connaît des moments difficiles dans la vie. Dieu répond aux prières, Dieu répond aux cris du cœur, il répond aussi à certaines de nos questions. Parfois, il ne répond pas non plus. Il y a d'autres questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il faut simplement apprendre à lui faire confiance. Mais ce n'est pas seulement des paroles pieuses qu'on veut vous partager ce matin, mais c'est une réalité. Ce n'est pas juste des paroles parce qu'on est des bons chrétiens, alors il faut dire ces choses-là. Mais c'est un vécu, c'est quelque chose qu'on peut vivre avec le Seigneur. Et c'est très difficile de vous exprimer en quelques mots tout ce qu'on a appris depuis plusieurs années, pas seulement avec la situation qui se présente avec la famille, mais déjà auparavant, ce qu'on vivait dans notre ministère. Dieu nous a appris tellement, tellement, tellement de choses. Et on est vraiment reconnaissant pour tout ce qu'on a appris et on se rend compte qu'on a encore tellement de choses à apprendre. Mais la grâce de Dieu est merveilleuse. Dieu nous libère de nous-mêmes. Ça, c'est extraordinaire. De pouvoir être attaché à lui, de pouvoir avoir les yeux fixés sur lui, d'être encouragé par lui et de pouvoir grandir vraiment en lui. Et nous, on voudrait simplement ce matin, simplement vous dire, ça vaut la peine de marcher avec le Seigneur. Pas parce qu'il nous donne des tas de bonnes choses, mais pour ce qu'il est, lui, comme personne. Parce qu'il est merveilleux et il vaut la peine d'être adoré, il vaut la peine d'être servi, il vaut la peine d'être notre Dieu. Et on veut vraiment le louer pour cela.
Viens, suis-moi, les paroles de Jésus à cet homme. Et on vient de parler du moi, celui qui parle, celui qui invite. On vient de voir que pour vraiment connaître une personne, il faut la côtoyer, il faut prendre du temps avec elle. Et c'est pour ça que Jésus maintenant va plus loin, une étape plus loin avec cet homme qui est à ses pieds. Jésus l'invite. Jésus l'invite à la relation. Il lui dit « Viens !» C'est une invitation. Mais Jésus doit venir en premier dans notre vie. C'est ce qu'on va voir à travers ce deuxième point. Marc précise que Jésus dit à l'homme « Viens !» Et dans ma version, il y a une parenthèse, je sais que ce n'est pas dans toutes les versions. « Prends ta croix, suis-moi. » C'est vrai que toutes les versions l'ont pas, c'est pas grave parce que de toute façon, Matthieu nous rapporte ces mêmes paroles de Jésus dans un autre contexte, dans Matthieu chapitre 16, verset 27 ou 24, je ne sais plus. Prends ta croix et suis-moi. Prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image, pour nous ça nous parle peut-être pas tellement, il faut réfléchir un peu. Prendre sa croix au fond, c'est renoncer à soi-même, c'est renoncer au moi. C'est mourir à soi-même. Et quand Jésus lui demande de donner tous ses biens aux pauvres, il lui dit « Abandonne tout ». Abandonne ton moi aussi. Tout ce qui est important pour toi, tout ce qui est ta sécurité, laisse-le de côté, donne-le à ceux qui en ont besoin. Et toi, viens, suis-moi. Tu trouveras auprès de moi tout ce que tu auras besoin. Si le Seigneur nous demande de tout abandonner, c'est qu'il veut remplacer tout ce qu'on a par tout ce que lui, il est. Il faut que le moi meure pour que lui puisse prendre toute la place. Il est celui qui est tout à fait suffisant, suffisant en toutes choses, pour toutes circonstances. Et il nous amène à nous détacher de notre égocentrisme pour nous combler par sa personne. David, le roi David, l'avait déjà compris, imaginez, ça fait plus de 3000 ans. Voici ce qu'il écrit au psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » J'aime bien cette image de David, goûter. On aime ce qui est bon, hein. Le Seigneur nous a pourvu de papilles gustatives et on peut goûter l'amer, le sucré, le salé, et les différents parfums à travers l'odorat aussi et le goût. C'est merveilleux de pouvoir goûter. Bien, Dieu nous invite à le goûter, à goûter combien lui est bon, à le trouver savoureux dans son être, dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, dans ce qu'il accomplit pour nous. Et Dieu promet le bonheur à celui qui cherche son refuge en lui, non pas dans ce qui est matériel, dans ce qui est autre que lui. Et la question que Dieu nous pose ce matin, est-ce que nous avons goûté Dieu? Est-ce que nous goûtons Dieu à travers sa parole, à travers la prière, la communion avec lui, à travers aussi nos frères et sœurs? Est-ce que Dieu fait nos délices? Est-ce que nous avons une relation réelle avec lui? En fait, si Jésus ose, ouais, je ne devrais pas dire ose parce qu'il a tout pouvoir, il a toute autorité, mais si Jésus offre cette relation avec cet homme, s'il lui lance cette invitation, c'est parce que Jésus est vraiment digne qu'on abandonne tout pour lui. Et cet homme, finalement, dans ce qu'il dit, dans son dialogue avec le maître, avec Jésus, cet homme affirme qu'il respectait 6 commandements. Si vous faites le compte, il y a 6 commandements. En fait, ils correspondent aux 6 derniers des 10 commandements. Ceux qui ont relation avec le prochain, ceux qui sont en lien avec le prochain. Mais par sa réaction, quand on regarde la réaction de cet homme, quand Jésus lui dit de tout abandonner, on comprend qu'il n'avait pas vraiment goûté combien le Seigneur était bon. Au fond, il trouvait sa sécurité et peut-être sa fierté dans son immense fortune. C'était peut-être sa gloire. Elle passait avant Dieu. Et on peut déduire de sa réaction que fondamentalement, il n'aimait pas Dieu parce qu'il avait un autre Dieu dans sa vie qui prenait toute la place dans sa vie. Et en réalité, même s'il affirmait suivre les 6 derniers commandements, on voit bien que les 4 premiers qui sont en lien avec Dieu, il les transgressait. Au fond, c'est pour ça qu'il était tout triste de devoir laisser sa fortune et il est parti avec les mains serrées, avec son argent dedans, symboliquement. Jésus l'invite, viens. Et pour répondre à son invitation, cet homme doit faire un choix, c'est sûr, un choix coûteux, il est vrai. Le Seigneur nous invite, nous aussi, effectivement. Qu'on lui appartienne ou qu'on ne lui appartienne pas encore, il nous invite toujours et encore, chaque jour. Je pense que Paul avait raison quand il disait aux Romains, chapitre 12, qu'on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice offert est mort. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien à aller chercher, il n'y a plus d'exigence, il n'y a plus de joie, de jouissance. Et dans ce sens-là, je crois que Paul, dans son idée, ce n'est pas de le faire une fois pour toutes à ma conversion, mais chaque jour, je dois à nouveau offrir mon corps, mes pensées, mon cœur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, l'offrir à nouveau, chaque jour, à Dieu. Chaque jour, Jésus, le Père, le Saint-Esprit, me réinvite, viens. Il m'ouvre ses bras. comment est-ce que je réagis? Peut-être que vous connaissez ce cantique, « Je te donne tout ». Oui, non? Est-ce qu'on le connaît? Oui, je vois des mains. Vous savez à quoi je fais référence. « Je te donne tout ». Moi, j'aime le chanter. Mais chaque fois, j'ai comme un pincement au cœur, une sorte un peu de mauvaise conscience. Je ne sais pas comment c'est pour vous, parce que j'essaye de penser à ce que je chante. Parfois, on chante automatiquement, ça m'arrive aussi. Hein. Et parfois, la tête n'y est pas et je suis à mille lieues ailleurs. Pardon, Seigneur. Mais quand j'y pense, ça me fait tout drôle. Parce que oui, d'un côté, je veux tout donner. Mais d'un autre côté, parfois, j'ai la main fermée sur quelque chose que je ne veux pas abandonner. Je te donne tout. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que ce sont de simples paroles sur de belles notes? Est-ce qu'on a peur, comme cet homme, qu'il nous en demande trop? On voudrait bien, j'aimerais bien que Dieu soit en premier, vraiment le premier et l'exclusif dans ma vie. J'aimerais tellement être approuvé par lui, comme cet homme-là au pied de Jésus. Mais je me rends compte, parfois trop souvent, que je garde quelque chose caché dans mon cœur, dans mes pensées, quelque chose que je ne veux pas lâcher. Et je sais que le Seigneur veut tout. Il ne veut pas qu'on se promène tout nu, qu'on n'ait plus de toit. Vous comprenez bien cela, hein? Je te donne tout. Quand il demande de laisser toute sa fortune, Jésus allait prendre soin de lui comme le Seigneur prend soin de nous. Mais c'est l'attitude du cœur qui est importante. On investit dans tellement de choses qui vont disparaître. On investit et on s'investit dans tant de choses qui sont du vent. J'ai bien aimé, il y a quelques semaines, j'ai entendu quelqu'un dire « Je n'ai jamais vu un corbillard. » Ça va un corbillard? Ouais. Parfois, je ne sais pas si on a des mots différents parfois en France. Mais on n'a jamais vu un corbillard avec un coffre-fort sur le dessus. Vous l'avez-vous vu? J'ai bien aimé l'image. Et on est parfois comme s'il y avait sur le toit là du corbillard, des choses auxquelles on tient tellement qu'on n'est pas prêt à les laisser. On serait prêt à les emmener dans notre tombe, même si ça ne sert à rien. Alors je vous propose un test. Répondez juste pour vous-même. Comment est-ce que je dépense l'argent que le Seigneur me confie? Où en est ma marge de crédit? Mes cartes de crédit, est-ce qu'elles sont loadées? Combien est-ce que je passe de temps sur les différents écrans qu'on a maintenant? Vous savez, il y en a qui en ont dans les poches, un écran par-ci, un écran par-là, un autre sur le bureau, et puis un autre dans le salon. Combien de temps est-ce que je passe sur les écrans? Est-ce que je suis capable de pousser ce bouton off? Quand est-ce que c'était la dernière fois où, pour prendre du temps pour Dieu, j'ai renoncé à un de mes plaisirs? Renoncé à un de mes plaisirs pour aller à la rencontre de Dieu, pour lui permettre de me parler, pour être à son écoute, en lisant sa parole, en priant. J'ai encore des progrès à faire dans ce domaine aussi. Et chacun de nous, je suis sûr, il y a des périodes où ça va bien, des périodes où ça va moins bien. Mais le Seigneur nous appelle et ce matin, encore une fois, il nous invite. J'aime beaucoup cette prière au psaume 119, 36, 37. On n'en connaît pas l'auteur. Mais cette prière, je la prie régulièrement pour moi, pour ma famille, pour mes fils, pour mes belles-filles. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Détourne mes yeux des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voix. que le Seigneur nous aide à prier cette prière bien souvent. Et dans Colossiens 3, Paul va dire à peu près la même chose, mais j'aime tellement le, comment Paul dit les choses. Il dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. »
Il y a bien des manières de passer du temps avec Dieu, bien des manières pour grandir dans notre relation avec Dieu. Et on est dans une période de l'histoire où on a énormément d'outils à notre disposition et vraiment on n'a pas d'excuses pour ne pas passer du temps avec le Seigneur et grandir en lui. J'aimerais vous proposer une des alternatives qui se présentent à nous, et particulièrement pour ceux qui sont plus jeunes, ceux qui ont terminé peut-être le cégep avant d'aller à l'université ou avant de commencer de travailler, de donner une année au Seigneur, prendre une année à part pour étudier la parole de Dieu, pour servir le Seigneur. Ça peut se faire ici au Québec, on sait déjà que Parole de vie Bethel, entre autres, propose cette alternative, mais ça peut aussi se faire à l'étranger. Et à France pour Christ, on a un programme qui s'appelle le PASS, Parcours d'apprentissage au service du Seigneur, où des jeunes peuvent passer une année à côté d'un missionnaire qui est en train d'implanter une église. Il y a un programme personnalisé de formation, de croissance personnelle et aussi de croissance dans le service. La personne qui s'implique dans un PASS a l'occasion de découvrir ses dons et de servir le Seigneur dans différents aspects. On a ce programme depuis 4 ans. On a pas mal de jeunes déjà qui sont passés et qui en sortent vraiment grandis. On est réjouis par leur témoignage à la fin de cette année, à la fin de leur parcours. Cette année, on a eu 4 jeunes qui ont fait le PASS, et en septembre on en a 8 qui arrivent pour le faire. Et on aimerait vous lancer ce défi à ceux qui sont peut-être dans cette période de la vie où ils peuvent le faire, de profiter de cette occasion pour avoir cette expérience, pas seulement au niveau relation avec le Seigneur, croissance dans la connaissance de sa parole, dans nos compétences, mais également une expérience transculturelle. C'est aussi enrichissant d'être déraciné de chez soi, d'être dans un autre pays, une autre culture, une autre manière de faire, un autre milieu. On apprend aussi beaucoup et c'est une occasion pour le Seigneur aussi de nous faire grandir. On a des photos de nous que vous pouvez prendre et derrière on a mis des sites internet, le site de France pour Christ, ceux de notre mission aussi, où vous pouvez aller pour chercher de l'information. On a aussi pour les plus âgés, on a un programme pour les 55+, le réseau 55+. C'est surtout parmi nos églises que les gens qui sont à la retraite ou pré-retraités participent dans ce programme. Programme d'aide sur le champ missionnaire, peut-être une semaine, 2 semaines pour de la construction, pour peut-être de l'évangélisation. Mais il n'y a rien qui empêcherait que des Québécois veuillent se joindre et fassent une semaine, 2 semaines avec les 55+ en France. Ça serait aussi une grande expérience et certainement un enrichissement.
Nous avons vu dans notre premier point, celui qui parle, celui qui invite, le moi, c'est Jésus, c'est notre motivation. Plus je connais Dieu, plus j'ai envie de le servir. Plus je comprends son amour, plus j'ai envie de l'aimer et d'aimer mon prochain, mes frères et sœurs en Christ d'abord, et ceux qui sont à l'extérieur. Le deuxième point parle de relation. C'est quand Jésus dit « viens ». Le troisième point, Jésus dit « suis-moi ». Viens, suis-moi. C'est l'action. Servir avec lui, servir comme lui. La chose qui me frappe tellement, Marc précise « Jésus l'aima. » C'est formidable, n'est-ce pas? Jésus aime les pécheurs. Jésus aime tous ceux pour lesquels il est mort. S'il a été crucifié, maltraité, insulté, c'est à cause de mon péché, du tien. Jésus aime. Jésus l'aima. Oh, je suis sûr, il aurait tellement aimé prendre cet homme, l'emmener avec lui, le former pour qu'il devienne son disciple et peut-être une colonne dans une de ces églises de l'ère chrétienne, du début de l'ère chrétienne. Jésus l'aima. Remarquons, et ça me touche tellement, Jésus n'a jamais condamné, je crois. dans les évangiles, je n'ai pas de souvenir, peut-être qu'il y en a, mais je pense à la femme samaritaine, je pense à la femme adultère qu'on allait lapider. Tant d'exemples. Et ici, avec cet homme, Jésus ne lui a pas fait la morale. Es-tu bien sûr, là, ces 6 derniers commandements? Il n'a pas posé de questions par rapport à cela. Jésus ne l'a pas contredit. Il l'a simplement invité à aller plus loin, à se joindre à lui. Viens. Quand Jésus dit « Suis-moi », c'est une invitation à être avec lui d'abord. Moi, quand j'entends l'invitation de Jésus, moi je comprends « faire d'abord ». Vous n'êtes pas comme ça? On est pas mal activistes, hein? On veut faire et on oublie l'être. Jésus dit « Suis-moi ». D'abord, il faut être avec lui avant de vouloir faire. Sinon, on va faire, oui, beaucoup de bêtises. Alors que ce soit au Québec ou que ce soit en France, nous avons ce désir, n'est-ce pas, nous qui connaissons Jésus, nous avons ce désir que les gens le connaissent aussi, lui, le rencontrent lui, qu'ils le découvrent et qu'ils le suivent. Mais comment le faisons-nous? Comment le faire? C'est pas facile. Si on se fie juste à nos forces, à nos ressources, ça va être probablement échec sur échec, n'est-ce pas? C'est le danger. Jésus veut qu'on le fasse à sa manière. Et la seule façon de pouvoir le faire à sa manière, c'est de le faire avec lui, en le suivant lui. Mais est-ce que nous réalisons, et nous le savons, est-ce que nous réalisons que nous sommes, pour les gens, nous sommes Jésus? Jésus n'est plus parmi nous. Personne ne peut dire « Ah, j'ai vu comment il fait. Je l'ai rencontré ce matin. » Nous sommes Jésus pour les gens, si nous sommes ses disciples. Et pour cela, il faut être avec lui. Il faut être près de lui. Il faut le côtoyer comme on l'a vu tout à l'heure. Si nous ne sommes pas Jésus pour les gens, qui le sera? Comment pourront-ils le voir, l'entendre, le connaître? Si moi je ne suis pas Jésus pour ceux auprès desquels il m'envoie. Nous chrétiens, c'est ce que veut dire le mot chrétien, nous sommes des petits Christ. Au début c'était une insulte, hein? Les gens d'Antioche qualifiaient les disciples de Jésus, ah, c'est des petits Christ, des petits Jésus. Ouais, les Québécois, hein? Bon. Heureusement en France on ne connaît pas cette insulte-là. Mais bon, pour les gens, on est des petits Jésus. On va le dire comme ça, hein? Bon. Au fond, avant de parler, je dois être. Mais comment est-ce que je peux être si je ne le côtoie pas? Si je ne le connais pas? Si je ne passe pas du temps avec lui? Ma manière de partager son message doit être semblable à la sienne. Jésus a d'abord aimé les gens avant de parler. Vous avez déjà regardé, examiné comment il accueillait le pécheur, comment il l'écoutait, il l'observait, comment il savait faire réfléchir. Je pense que Jésus a rarement répondu à une question directement. Savez-vous ce qu'il faisait? Il renvoyait une question. Ouh! Ça fait réfléchir. Jésus a souvent posé des questions, même à ses disciples, même aux 12. C'est vrai, il écoutait, observait, examinait, faisait réfléchir, mais il guérissait aussi, il nourrissait, il prenait soin, il accordait son pardon, sa grâce. Il démontrait son amour.
On avait un de nos collègues missionnaires, André, son épouse Esther, ont été envoyés par leur église, qui est dans l'est de la France, pour être missionnaires implanteurs dans le nord. Et André et Esther, c'était vraiment des évangélistes, ils aiment les gens, ils ont à cœur de partager la parole. Et pendant 9 ans, ils ont travaillé fort à prêcher l'évangile par tous les moyens habituels que ça se faisait à ce moment-là. Distribution de traités, aller sur la place du marché, ils essayaient d'entrer en contact avec les gens. Et après 9 ans, André était vraiment découragé. Dans une de ces journées qu'il prend régulièrement pour prier, pour jeûner, il pleurait devant le Seigneur et il disait « Seigneur, il y a 9 ans qu'on travaille, 9 ans et il n'y a pas de conversion. On peut même pas dire qu'il y a un bon contact. L'Église est toujours à zéro. » Et André se disait « Mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus ?» Et là, à ce moment-là, c'est comme si une petite voix lui disait « André, fais autrement. » Et André s'est mis à réfléchir et s'est rendu compte que peut-être on abordait les gens d'une telle manière que de toute façon, aussitôt qu'ils se rendaient compte qu'on était chrétien, la porte se fermait et puis c'était fini. Il dit, pourquoi pas trouver un moyen qui nous permettrait de rencontrer les gens, de passer du temps avec eux, de vivre avec eux, qu'ils nous voient vivre et que les questions viendraient d'eux, qu'eux seraient intéressés. Vous savez, les Français sont très, très durs à l'Évangile. Et France pour Christ travaille dans les milieux qui sont vraiment français. Nos églises ne sont pas dans des endroits où il y a beaucoup d'immigrants, donc c'est vraiment des Français. Et c'est dur. C'est reconnu comme étant un milieu très difficile pour prêcher l'Évangile. Et c'est là où André a eu l'idée de se dire, avant d'être chrétien, l'endroit où il aimait passer son temps, c'était dans les cafés, dans les bars. C'était là où il aimait être, c'est là où il rencontrait ses copains, c'est là où il complotait ses mauvais plans. Et il s'est dit, mais peut-être comme chrétien, on pourrait faire un bar, un café. Bon, les bars, c'est pas tout à fait la même chose en France qu'ici au Québec, mais un café, disons, où les gens seraient à l'aise, où ils pourraient venir, où ils se sentiraient accueillis et où ils pourraient s'exprimer librement. Et puis du coup, ben, nous aussi, chrétiens, on aurait l'occasion de nous exprimer librement. Et donc, d'une chose à l'autre, c'est ce qui a commencé à être fait. Un café-bar a été ouvert à Douai, dans le nord de la France. Un endroit où les gens sont accueillis, les gens sont servis. Il y a des boissons, donc c'est un café sans alcool. Il y a des boissons. Et aussi, on met l'accent sur les produits équitables. C'est un peu à la mode en France. On aime quand même ce qui est juste. On est un peu socialiste. On est pas mal socialiste dans la pensée. Donc, on aime quand même la justice et le fait de savoir que les grandes sociétés, les grandes multinationales exploitent les petits producteurs. Eh ben, on n'aime pas trop et on aime bien favoriser les produits équitables. Donc, ils servent des produits équitables. Et en même temps, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent servir là, des chrétiens bénévoles qui viennent servir au bar et qui sont un témoignage. L'équipe missionnaire aussi travaille là. Et par la grâce de Dieu, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était un moyen qui était efficace. Les gens avaient moins peur d'eux. Et quand ils commençaient à partager l'Évangile, suite à des questions qu'on leur posait, les gens commençaient à s'ouvrir. Et ils ont vu des conversions et une église est maintenant là en implantation, en formation. Une petite église est en formation. Par la suite, un deuxième café-bar a été ouvert dans le nord, du côté de Lens, avec l'accent ici mis davantage sur l'accueil auprès de ceux qui ont des pensées suicidaires. Cette région-là est une région qui est très pauvre, connaît beaucoup de chômage, mauvaise alimentation, le taux de suicide le plus élevé en France. Et la ville, les autorités municipales étaient très préoccupées par la situation. Et alors les chrétiens ont proposé un café-bar où les gens qui ont des pensées suicidaires pourraient venir être accueillis, mais aussi un endroit où on pourrait enseigner, aider à améliorer l'alimentation. Donc ils servent des smoothies de fruits et légumes à prix démocratique. Ils ont des ateliers sur l'alimentation. Et c'est très rapidement, ils ont eu tout un impact déjà. Ça fait seulement 3 ans que c'est ouvert, mais il y a déjà tout un impact. Il y a déjà eu plusieurs conversions. Par la suite, ça a été une réflexion pour toute la mission de France pour Christ, de réfléchir, est-ce que peut-être on pense que les gens sont fermés à l'Évangile, mais peut-être c'est notre manière de les aborder qui est peut-être pas la bonne. Et on s'est rendu compte que quand on remet en question notre manière d'évangéliser, ben, il y a des idées créatives qui y viennent, et puis il y a des portes qui s'ouvrent, et finalement on se rend compte que les gens, en tout cas aujourd'hui, les gens ont soif. Les gens sont en recherche de spiritualité. Et donc, comme chrétiens, nous pouvons aller vers eux, mais de la manière qu'eux sont prêts aussi à écouter. Dans notre église, ça c'est quelques photos de notre groupe de découverte de la Bible, nous avons depuis quelques années et multiplier les groupes de découverte de la Bible, on s'est rendu compte que c'est incroyable comme les gens veulent venir à un groupe de découverte de la Bible. Ils viendront pas une soirée d'évangélisation, mais ils viendront pendant des semaines et des mois à un groupe de découverte de la Bible. Parce que c'est un temps d'échange, un temps de questions, un temps où on apprend, mais sans qu'ils se sentent qu'on cherche à leur imposer les choses. Et par la grâce de Dieu, plusieurs se sont convertis dans notre église aussi, et on voit une croissance. Nous sommes dans l'est de la France, qui est une région, la région où nous sommes est une région d'arrière-plan protestant, et où les gens sont encore religieux, plus que pour, dans le reste de la France. Et nous voyons beaucoup d'ouverture, en particulier avec les groupes de découverte de la Bible, mais aussi il y a des chrétiens qui se disaient « Mais moi je peux pas faire animer un groupe de découverte de la Bible », mais ils invitent un voisin à lire la Bible avec eux. Toutes les semaines, ils se rencontrent et ils lisent un chapitre, deux chapitres ensemble, et ils en discutent du un à un. Et ça aussi, c'est toutes sortes de possibilités. Dans notre région, c'est une chose qui fonctionne vraiment très bien.
Je conclue alors. Viens, suis-moi. Jésus invite d'abord à se laisser découvrir, à chercher à le connaître toujours plus, découvrir son amour, sa grâce. Et je dois dire que je suis de plus en plus émerveillé par qui il est. Qui est notre grand Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça me motive à rechercher la sainteté. Ça me motive à abandonner le péché, à obéir à Dieu, à être son témoin, à remplir la mission qu'il m'a assignée. Et je veux de plus en plus le connaître et me reposer sur lui. C'est la grande motivation, connaître Dieu. Passer du temps avec lui, dans sa parole, dans sa prière. La prière, j'ai besoin de faire des progrès. Je trouve ça difficile, la prière. Je ne sais pas pour vous, il y en a pour lesquels c'est plus facile, sont peut-être plus relationnels, mais je dois faire des progrès dans la prière. Cultivons dans notre vie et dans notre vie d'église la reconnaissance et l'adoration. Je suis surpris comment souvent la parole nous invite et nous dit que nous devons être reconnaissants. Je reviens de lire Colossiens et 5 ou 6 fois, Paul invite l'église de Colosse à la reconnaissance. Nous devons cultiver ces choses dans notre vie parce que ça nous rapproche de Dieu, ça nous permet de grandir dans notre intimité avec lui. La deuxième chose que nous avons vue, viens, c'est l'invitation. Dieu nous invite à la relation avec lui dans une intimité toujours plus grande. Puisque Jésus est Dieu, il mérite la première place dans ma vie. Ne soyons pas indulgents avec nous-mêmes. On est trop souvent indulgents, bien trop indulgents avec nous-mêmes. On se caresse dans le dos. Je sais pas, vous voyez l'image que je veux dire. Paul était, il le dit, hein, je combats. Paul était déterminé à vaincre le mal, à vivre la vie nouvelle, à vivre une vie de victoire. Ne soyons pas indulgents avec nous-mêmes. Rejetons toute idole, tout ce qui est en compétition avec ce Dieu merveilleux que nous connaissons, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés et qui nous veut en communion avec lui. Ce que j'ai appris ces dernières années avec France pour Christ en particulier, je ne connaissais pas ça, ou en tout cas ça ne m'avait jamais frappé, c'est de nous attacher à Dieu. Et j'ai remarqué en relisant le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, ça dépend peut-être des versions, mais ce mot « s'attacher à Dieu », ce verbe « s'attacher » revient souvent en ce qui concerne l'être humain et Dieu. Et j'aime cette idée. Je veux m'attacher à Dieu, dépendre de lui, de façon volontaire, développer cette dépendance de lui. J'étais trop souvent, et encore, ça m'arrive, à foncer le matin, tête baissée dans l'arène. Vous savez, l'arène, là, les combats, les gladiateurs. Je fonce tête baissée, comptant sur moi seul, sur mes propres forces, mon expérience, mes dons. C'est destructeur et les effets sont destructeurs pour celui qui envers lesquels je dois avoir un ministère parce que je n'agis pas selon Dieu, je ne laisse pas Dieu travailler, je veux forcer les choses selon mes idées. Attachons-nous au Seigneur dans une dépendance de plus en plus grande. Et finalement, là on peut agir. D'abord être, cultiver la relation, après on peut faire en imitant ce que nous voyons de Dieu, ce qu'il nous montre. Jésus doit être mon modèle, ton modèle. Nous devons agir comme lui, vivre comme lui, aimer comme lui. C'est la meilleure façon de le connaître et de le faire connaître, de lui ressembler de plus en plus et de simplement faire comme lui fait en lui suivant fidèlement. Prions jour après jour, demandons à Dieu. D'abord, remercions-le pour son immense sacrifice. Le Père a offert le Fils a donné sa vie, nous savons ces choses. Mais développons cette attitude de reconnaissance envers Dieu pour son immense amour, pour ses démonstrations de bienveillance, de grâce envers nous jour après jour. Développons aussi cette attitude d'adoration dans nos propres vies. Et demandons-lui, fais que jour après jour, je te connaisse de mieux en mieux. Et disons-lui qui il est pour nous. Je veux lui dire qui il est pour moi, comment je le trouve, comment je l'apprécie. C'est ça l'adoration au fond. Et cherchons à abandonner tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Demandons-lui, il va le faire. Donnons-lui les commandes, les rênes de notre vie. On peut demander à Dieu, guide-moi, aide-moi à t'aimer toi toujours plus et à aimer mon prochain toujours plus comme moi je m'aime et même au-delà, comme toi tu l'aimes. Prions ensemble. Quelle grâce, Père, de te connaître. Quelle grâce que tu te sois révélé sur nous, à nous. Nous étions dans l'ignorance totale, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la rébellion. Mais dans ton amour, tu es venu à nous. Tu as dévoilé qui tu étais. Nous avons pu comprendre qui tu étais, ton immense amour pour nous. Et du coup, nous avons vu aussi la laideur de notre péché, de nos comportements, de nos paroles, de nos pensées. Merci Seigneur d'avoir pu nous repentir. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous donnes en Christ. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Seigneur, c'est tellement merveilleux. Et Seigneur, je veux de moins en moins vivre selon ma vieille nature et de plus en plus selon cette nouvelle nature que tu m'as donnée. Je veux apprendre à te connaître, savourer ces moments d'intimité avec toi. Seigneur, aide-nous en cela, à nous consacrer toujours plus à toi, à te donner de plus en plus de temps pour cela, pour que tu puisses nous transformer, que nous te ressemblions de plus en plus pour vivre comme toi et ainsi être utile dans ton œuvre. Donne-nous d'être des serviteurs, des servantes utiles dans ton œuvre, qui, par notre vie, par notre témoignage, par notre obéissance, par notre amour pour toi, nous puissions vivre à ta gloire. Oui, faire éclater ta gloire, Seigneur, en te montrant à d'autres, à ceux qui nous entourent, pour qu'eux aussi puissent avoir cette vie nouvelle et devenir tes enfants, devenir membres de ton peuple. Bénis ton Église ici ce matin, Seigneur. Bénis-nous chacun dans nos vies et continue ton œuvre en nous, œuvre pour laquelle nous te remercions tellement. Merci pour cette communion. Merci de nous inviter. Viens, suis-moi. Seigneur, je veux te suivre. Aide-moi en cela et aide chacun de mes frères et sœurs. Au nom de Christ, nous te prions. Amen.